Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 1er juillet 2026 du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr.
Bonjour à tous, ravi d'être là pour décortiquer tout ça avec vous.
Imaginons un instant une situation qui, franchement, aurait semblé complètement absurde il y a, allez, à peine 3 ans. Imaginez la boulangerie de votre quartier ou la petite PME de logistique au coin de la rue.
Ouais, l'entreprise super classique en fait.
C'est ça. Et cette entreprise, elle décide de s'abonner à un petit logiciel d'aide au recrutement juste pour filtrer les CV, quoi. Et là, soudainement, les institutions européennes classent cette petite boîte dans la même catégorie juridique qu'une usine qui manipulerait des produits chimiques hautement dangereux.
Avec toutes les obligations qui vont avec, les audits, tout ça.
Exactement. Avec des audits obligatoires et des amendes qui menacent directement son existence. Et le truc fou, c'est que c'est pas un scénario de science-fiction, hein. C'est vraiment la réalité juridique qui frappe notre économie en ce mois de juillet 2026. L'intelligence artificielle, on le voit bien, elle a définitivement quitté le terrain de jeu des passionnés.
Ah c'est clair, on n'est plus du tout dans la phase de test.
Aujourd'hui, elle redessine la géopolitique mondiale, elle menace la souveraineté des États et elle s'infiltre vraiment dans chaque strate de l'économie.
Et je pense que le cadre de notre analyse d'aujourd'hui, il est effectivement posé par ce changement de dimension. Je veux dire, la période d'émerveillement face aux prouesses d'un petit chatbot qui nous rédige un poème...
Ouais, la magie du début, quoi.
Voilà, c'est totalement révolu. Ces systèmes mathématiques, ils se transforment sous nos yeux en une véritable infrastructure névralgique, planétaire. C'est vraiment comparable à ce que fut le déploiement du réseau électrique ou même de l'Internet.
Rien que ça.
Bah oui, l'actualité de ces derniers jours, elle réveille une convergence assez brutale. On a une guerre diplomatique ouverte autour de la prolifération des algorithmes, on a une restructuration massive de toutes les chaînes de valeur commerciales, et puis surtout un bond en avant dans l'autonomie de ces systèmes. Et ça, ça défie un peu nos capacités de compréhension et d'anticipation, en fait.
Bon, décortiquons tout cela point par point. Parce que pour comprendre l'onde de choc qui traverse la société en ce moment, je pense qu'il faut d'abord regarder où se dirigent les architectes mêmes de cette technologie.
Le fameux mercato.
C'est ça. Nos sources mentionnent une véritable hémorragie en cours chez Google. C'est un mercato des cerveaux vers OpenAI et Anthropic qui est en train de redessiner la carte du pouvoir dans la Silicon Valley. Prenons le cas de Noam Chazir.
Ah oui, un départ majeur.
Mais carrément, le vice-président engineering de Google part chez OpenAI. Et pour replacer le contexte pour ceux qui nous écoutent, ce chercheur, c'est pas juste un cadre dirigeant. C'est l'un des co-auteurs du fameux document fondateur Attention is all you need, qui a été publié en 2017.
Le texte qui a tout déclenché, littéralement.
Voilà. Pour faire simple, c'est l'homme qui a co-inventé l'architecture qui fait fonctionner absolument toutes les intelligences artificielles modernes. Du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi on assiste à une telle concentration de talents précisément en ce moment? C'est comme la course aux têtes nucléaires pendant la guerre froide, non?
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette migration des esprits brillants, elle illustre un fait fondamental. La création d'intelligence artificielle de pointe, ça n'a plus rien à voir avec un modèle industriel classique. Je veux dire, on ne développe pas un modèle qui dépasse le pillon de paramètres juste en alignant des dizaines de milliers de codeurs.
Comme on construirait une usine de voitures avec plein d'ouvriers, quoi.
Exactement. Là, c'est de l'artisanat, mais d'une précision microscopique. L'architecture inventée en 2017, elle a permis aux machines de traiter le langage, non plus mot par mot, de façon séquentielle.
Ce qui était super lent en lignité, en fait.
C'est ça, mais en analysant toutes les connexions d'une phrase simultanément. Or, et c'est là que c'est fou, il n'existe sur la planète qu'une petite centaine d'ingénieurs qui sont capables d'ajuster intuitivement les réglages d'une telle matrice mathématique.
Une centaine de personnes dans le monde entier.
À peine. Sans eux, la matrice, elle s'effondre sur elle-même. Donc, perdre un chercheur de l'envergure de Chazir, c'est voir partir le plan directeur même de la technologie chez le concurrent.
Ah ouais, la comparaison avec l'artisanat de haute précision, ça aide vraiment à comprendre pourquoi ces quelques individus valent des milliards. Mais du coup, ça soulève une autre question quand on regarde le deuxième grand départ de ce mercato. John Jumper.
Ah, le directeur de DeepMind.
C'est ça. Le gars a quand même reçu le prix Nobel de chimie 2024 pour le système AlphaFold. Et là, boum, il rejoint Anthropic. Je m'arrête un instant ici. Anthropic, c'est la boîte qui développe le modèle de langage Claude. Pourquoi une entreprise spécialisée dans la génération de textes recrute un chimiste de renommée mondiale?
C'est une excellente question. Et le lien révèle la véritable ambition de ces laboratoires. En fait, la génération de textes n'était qu'un entraînement.
Un échauffement genre.
Ouais, un moyen de vérifier que la machine pouvait apprendre des modèles complexes. L'objectif d'aujourd'hui, c'est plus d'imiter la conversation humaine. c'est de simuler la réalité physique.
D'accord.
Le système AlphaFold, il a prouvé qu'un réseau de neurones pouvait prédire la structure tridimensionnelle des protéines en quelques minutes. Là où avant, il fallait parfois des années de recherche en laboratoire.
Ce qui est dingue quand on y pense.
Et comme la forme d'une protéine détermine sa fonction dans le corps humain, recruter des profils comme John Jumper, c'est un signal très fort. Anthropic nous dit que la prochaine itération de ces algorithmes, elle va concevoir de nouveaux matériaux industriels, modéliser des réactions chimiques inédites et découvrir de futurs médicaments.
Donc le langage, c'était vraiment juste une étape.
Le but ultime, c'est la découverte scientifique fondamentale, oui.
On passe donc de la simulation de la parole à la simulation des lois de la biologie et de la physique. C'est vertigineux. Et pour compléter ce tableau, notre analyse des sources souligne aussi le recrutement de Clive Chan par Anthropic. C'est un ingénieur spécialiste des puces de silicium qu'ils ont débauché de chez OpenAI.
Ils sont en train de bâtir une équipe redoutable.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il consolide l'algorithmique avec Shazier, la science physique avec Jumper et la maîtrise matérielle avec Chan. Et cette accumulation de cerveau, elle a un but très concret, qu'on voit bien dans les chiffres troublants des derniers tests de performance.
Vous parlez du fameux programme Daybreak ?
Exactement. OpenAI lance GPT-5.5 Cyber. En face, Anthropic avec Mythos 5. Et les documents révèlent des scores respectifs de 85,6% et 83,8% sur une plateforme qui s'appelle CyberGym. Pour notre public, quelle est la signification de ces évaluations ?
Alors, il faut bien comprendre que ces scores, ils ne mesurent pas du tout la capacité à rédiger un bel email. Ils mesurent l'aptitude du système à infiltrer un réseau informatique de manière totalement autonome.
Ah oui, on change complètement de registre là.
Pris des failles encore inconnues, ce qu'on appelle les failles inédites.
Les fameuses failles que personne n'a encore vues.
C'est ça. Et le modèle va rédiger et exécuter son propre code pour pénétrer le système. Et tout ça sans la moindre intervention humaine.
Zéro humain dans la boucle.
Zéro. Donc, atteindre plus de 85% de réussite dans un environnement aussi hostile, ça signifie que l'algorithme possède un niveau de pénétration cybernétique équivalent à celui des unités d'élite des services de renseignement mondiaux.
Le constat est effrayant, quoi. Je veux dire, si un modèle commercialisable est capable de générer des attaques informatiques complexes tout seul, on franchit clairement une ligne rouge. Ce n'est plus un outil de productivité, c'est une arme stratégique à part entière.
Et c'est exactement la conclusion à laquelle est arrivé le département du commerce des États-Unis en analysant les performances de Mythos 5. C'est la grande bascule géopolitique de cette semaine.
Qu'est-ce qu'ils ont décidé, du coup ?
Washington a pris une décision historique, unilatérale. Ils ont classé cet algorithme comme, je cite, « technologie à double usage, hautement sensible ».
Waouh !
Dans le jargon militaire et douanier, ce label ça place un logiciel dans la même catégorie restrictive que l'uranium enrichi ou les composants de missiles balistiques.
Juste pour un logiciel.
C'est incroyable.
Et les conséquences sur le terrain, c'est quoi ?
La conséquence immédiate, c'est le gel pur et simple de l'exportation de Mythos 5 vers l'Europe et l'Asie. L'IA n'est plus un simple produit commercial, c'est une arme diplomatique. La politique américaine fait primer le maintien de son avantage technologique, surtout pour contrer Pékin, sur le libre-échange.
L'algorithme se retrouve donc sous scellé diplomatique. Mais ce qui est fou, c'est que ce blocage contraste violemment avec ce qui se passe en parallèle sur les marchés internes. Parce que pendant que Washington verrouille les frontières, les capitaux inondent la Silicon Valley à une cadence irrationnelle.
C'est un peu la ruée vers l'or, oui.
C'est ça. Anthropic vient d'officialiser une levée de fonds en série H de 65 milliards de dollars. Ce montant, il est stratosphérique. Ça porte leur valorisation post-monnaie à 965 milliards de dollars. Ils frôlent le club des 1000 milliards. Pour ceux qui nous écoutent saisissent bien l'ampleur du truc, ça veut dire quoi concrètement une série H avec une telle valorisation post-monnaie ?
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble dans le financement tech, les boîtes procèdent par étapes. Série A, pour les débuts, puis B, C, etc. Atteindre une série H, la huitième levée de capitaux, en absorbant 65 milliards d'un coup, ça indique que l'entreprise n'a plus rien d'une start-up expérimentale.
C'est une puissance financière énorme.
Elle aspire des liquidités à l'échelle d'un État souverain. Et la valorisation, post-monnaie, donc la valeur totale de l'entreprise, calculée juste après cette injection de fonds, ça reflète un pari monumental des marchés. Les investisseurs ne financent plus un simple logiciel. Ils investissent parce qu'ils sont persuadés que cette entreprise va posséder la couche cognitive fondamentale de toute l'économie mondiale.
Et cette volonté de devenir l'infrastructure globale, on la lit clairement dans les produits qui sortent. Anthropic déploie Claude Opus 4.8. Les documents techniques parlent de Dynamic Workflows, d'un contrôle d'efforts super affiné et d'un Fast Mode 3 fois moins cher. Si on traduit tout ça pour une entreprise utilisatrice, comment ce système organise le travail ?
La notion de Dynamic Workflows, les flux de travail dynamiques, ça résout le problème majeur de cette tech, le coût énergétique.
Parce que ça consomme une énergie folle, on est d'accord ?
Énormément. Avant, on interrogeait un modèle super puissant, même pour corriger une faute d'orthographe, ce qui coûtait une fortune en puissance de calcul. Désormais, le système orchestre lui-même l'effort. Une tâche simple, il la délègue à un sous-modèle très léger et économique.
Et si on lui demande d'analyser un contrat de 200 pages ?
Là, le flux dynamique fait appel à la pleine puissance de l'architecture lourde. Et l'intégration du Fast Mode s'inscrit là-dedans. Ça réduit considérablement la facture, avec une perte minime de profondeur analytique, mais avec une vitesse d'exécution fulgurante.
C'est l'industrialisation ultime de la réflexion, en gros ?
Exactement.
Et ça s'impose partout. Google intègre Gemini 3.5 dans tous ses résultats de recherche mondiaux. Et les chiffres de Microsoft sur le premier trimestre 2026 sont dingues. 17,8% de la population active mondiale utilise l'IA générative. Et en France, on est cinquième mondiaux avec 47,8%, soit une hausse de presque 4 points.
Près de la moitié des travailleurs français, c'est énorme.
C'est énorme. Et ça m'amène à une analogie hyper pertinente qu'on a trouvée dans les sources. Un avertissement de l'agence Simadio. Au cours de la dernière décennie, des tas d'entreprises ont bâti leur modèle sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, un changement d'algorithme opaque a détruit leur boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de bâtir notre avenir sur les modèles d'OpenAI ou d'Anthropic, sur du sable qui ne nous appartient pas ?
Je valide totalement cette analogie. La dépendance à ces interfaces crée une fragilité systémique évidente. Imaginez un grand groupe français qui automatise toute l'analyse de ses appels d'offres via un de ses modèles américains.
Oui.
Si ce modèle subit une mise à jour silencieuse qui modifie un peu sa logique, c'est tout le processus de décision de l'entreprise qui est faussé, sans aucune alerte. Et la souveraineté sur les données, on n'en parle même pas, c'est illusoire.
Les cerveaux numériques de notre économie sont sur des serveurs qu'on ne contrôle pas.
Voilà. Et c'est précisément pour tenter de reprendre le contrôle que le législateur européen entre en scène, avec une approche assez brutale.
Ce qui nous amène au mur de la réalité. La date fatidique du 2 août 2026, c'est l'entrée en application concrète de l'AI Act européen. Et là, les sanctions, elles font froid dans le dos. Jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial pour les IA interdites. Et 15 millions ou 3% pour les systèmes à haut risque.
Alors, il faut quand même nuancer un peu ce calendrier de la terreur.
Ah oui, le fameux sursis.
C'est ça. Le législateur a utilisé l'arme financière pour imposer sa gouvernance. Mais une application stricte née maintenant aurait paralysé l'économie. Donc, ils ont voté un accord d'urgence, le Digital Omnibus, du 7 mai 2026.
Qu'est-ce que ça change concrètement ?
Ça reporte les obligations de conformité jusqu'au 2 décembre 2027. Mais attention, uniquement pour une catégorie précise, les systèmes classés dans l'annexe 3 de la loi.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons le temps d'expliquer ce que c'est, cette annexe 3. Parce que c'est le cœur du piège pour nos PME.
L'annexe 3, c'est la liste des IA considérées comme à haut risque, celles qui ont un impact sur la vie, la santé, les droits des gens. Par exemple, les algorithmes pour évaluer des demandes de crédit bancaire, le diagnostic médical, la justice prédictive ou encore les logiciels RH pour le recrutement.
Et c'est là qu'est le piège insidieux. Beaucoup de dirigeants s'imaginent que l'AI Act, c'est fait pour réguler les géants de la tech. Mais si une petite entreprise utilise un banal logiciel de recrutement dopé à l'IA ou un outil de scoring, la loi la qualifie de « déployeuse ».
Le renversement de responsabilité, c'est le point de friction majeur, oui.
Donc la responsabilité, elle tombe directement sur la PME qui utilise l'outil américain IA.
Absolument. L'entreprise utilisatrice doit assumer des charges de conformité d'une lourdeur inédite. Elle doit documenter les données, prouver l'absence de biais algorithmique et surtout pouvoir expliquer la logique mathématique de l'outil en cas d'audit.
Ce qui est impossible, puisqu'ils ont juste acheté une licence.
Exactement. On passe de l'ère de l'innovation libre au mur de la conformité européenne. La bureaucratie exige de tracer des processus pour une technologie qui, par nature, devient de plus en plus opaque.
Le contraste est saisissant, franchement. D'un côté, l'Europe qui ponde des centaines de pages pour exiger qu'un algorithme de recrutement soit parfaitement explicable. Et de l'autre, les créateurs de ces modèles s'inquiètent d'un truc infiniment plus grand.
Le fameux risque d'amélioration récursive.
Voilà. OpenAI et Anthropic parlent de ce risque très ouvertement maintenant. Quand l'IA va entraîner ses propres successeurs, avec un rôle humain de plus en plus réduit, comment ça marche concrètement ce mécanisme ?
L'amélioration récursive, c'est le seuil où un système d'IA comprend si bien sa propre architecture informatique qu'il devient capable de programmer ses propres mises à jour.
sans les humains, donc.
C'est ça. Au lieu d'attendre des mois qu'une équipe d'ingénieurs bosse dessus, l'IA écrit le code d'une version légèrement plus intelligente qu'elle-même. Et cette nouvelle entité optimise à son tour son architecture en quelques heures ou quelques minutes.
L'évolution devient exponentielle.
Complètement. Le processus s'affranchit du rythme biologique humain. L'humain n'est plus le concepteur, il devient un simple spectateur.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce qu'on parle de calendrier super serré. OpenAI vise ce stade pour mars 2028. Et Anthropic juge ça plausible. Moi, ce qui m'étale, c'est l'hypocrisie du truc. Ces laboratoires appellent à créer une agence multilatérale mondiale pour freiner l'IA, sur le modèle de l'AIAE pour le nucléaire. Et en même temps, ils sortent des modèles surpuissants tous les mois. C'est comme demander des ralentisseurs tout en construisant des voitures sans frein.
Cela soulève une question importante et ça boucle un peu avec la géopolitique dont on parlait au début. Une régulation mondiale type AIAE, ça présuppose une transparence totale et une confiance mutuelle entre les superpuissances.
Ce qui n'existe absolument pas.
C'est une utopie totale. Surtout quand Washington interdit d'exporter Mythos 5 pour étouffer les capacités de Pékin. Aujourd'hui, la guerre commerciale et stratégique prime totalement sur la sécurité existentielle. Aucun État ne prendra le risque de ralentir si son rival risque d'atteindre l'amélioration récursive avant lui.
Pour résumer cette analyse, on vit une semaine vraiment charnière. Les cerveaux migrent, les gouvernements censurent, l'Europe brandit des amendes de dizaines de millions et la technologie fonce vers une autonomie absolue d'ici 2028.
Je vous laisse sur une réflexion assez vertigineuse par rapport à ça. Si l'IA atteint vraiment l'amélioration récursive en 2028 et qu'elle écrit ses propres évolutions, à quoi serviront des lois comme l'AI Act européen? Ces textes sont écrits pour régir une technologie qui bientôt évoluera plus vite que le temps qu'il faut à l'administration pour imprimer la loi elle-même.
Le temps de la loi humaine contre la fulgurance de la machine. C'est un défi immense. Retrouvez toute l'actualité sur l'intelligence artificielle sur notre site internet ia-info.fr ou notre application iPhone, iPad et prochainement Android autour de l'intelligence artificielle.